vrai, ne ressemblait à aucune autre. On portait le docteur Robal en triomphe, on se battait pour lui. Ses discours enfiévraient les ouvriers, dans leur enthousiasme, ils se croyaient devenus les maîtres. « Toi, Marlier, tu as de l'instruction, hein? C'est à toi de prendre la tête avec le docteur. » Marlier répondait, « Non, nous ne ferons rien les uns sans les autres. »« Mais marche, marche !» disait le facteur Guénic. « Toi et le docteur, toi et le docteur !» répétaient Briand, Lautier, Calvez et tous les candidats ouvriers. « Le docteur est un bourgeois !» grogna le Bras. « Pas de transaction, tout ou rien, avec votre RP, là, votre représentation proportionnelle, vous faites le jeu des malins et des ambitieux. Le docteur se servira de vous !» Le dimanche de mai, où tout devait se décider, arriva. Mon père ne parut pas à la maison de toute la journée. Ma mère, elle, nous parla de la maison du peuple. Il y aurait une grande salle où les enfants joueraient des conférences pour les grands et des fêtes. De vrai, c'est votre père qui le dit. La tête me tournait de joie. Dans mon imagination d'enfant, tout cela, c'était la révolution. Je me mis à crier « La révolution !» Ma mère éclata de rire. « Mon sauveur et mon roi, qu'est-ce que tu nous chantes ?» Mon père ne rentra que très tard. J'entendis qu'il disait « Ils ont tous passé !» Nous le savions. Les clameurs qui retentissaient depuis une demi-heure dans la rue nous l'avaient appris. Le lendemain, le docteur Robal rencontra Calvez sur la place nationale et lui dit « C'est moi qui dois être élu maire. Le fauteuil me revient, j'ai toutes les qualités pour conduire ce peuple. » Calvez secoua la tête. « Nous ne voterons pas pour vous. »« C'est moi qui ai tout fait. Le succès d'hier est mon succès. »« Non. Je suis votre chef. » »« Pas le mien. » La colère empoigna le docteur qui se mit à injurier Calvez et à le menacer, mais Calvez tourna les talons. 15 jours plus tard, les conseillers se réunirent pour nommer un maire. La veille, le docteur avait fait coller des affiches sur tous les murs qui disaient « Marlier, Lautier, Calvez sont des traîtres. Ils sont vendus aux libéraux. » Aussitôt, la division se mit chez les ouvriers. Des rixes éclatèrent. Dans la matinée, quelques camarades vinrent chez mon père. Ils étaient très animés et parlaient de faire un mauvais parti au docteur. Ma mère arriva. « François, la place de la mairie est noire de monde. Lâche ton ouvrage. » Mon père sortit. Près de la place, il entendit des cris. La foule assiégeait la mairie. Devant la porte, des agents se démenaient. Il entra. Debout, sur l'estrade, au fond de la salle du conseil, Marlier regardait la foule. Mon père fut frappé de le voir si pâle. Depuis le moment où, à la suite du vote des conseillers, le doyen d'âge l'avait proclamé maire, la foule hurlait « Vendu !» Le docteur Robal agitait furieusement les mains dans la direction de Marlier. « Vendu, démission ! Marlier est un anarchiste ! Démission !» La droite éclatait de rire. La foule envahissait la salle du conseil. Le docteur Robal hurla « Place au peuple !» En un clin d'œil, le mobilier de la salle du conseil joncha le parquet. Un encrier alla s'écraser sur le mur et frôla le visage du docteur. À ce moment, on cria « Les gendarmes !» Ils arrivaient, baïonnettes au canon. Démissionnèrent tous et on fit de nouvelles élections. Le docteur Robal triompha avec le soutien des libéraux, des radicaux et de quelques voix de droite. Les ouvriers étaient désorganisés. La section socialiste était morte. Le dimanche, la bourse du travail restait déserte. À la maison, nous vivions. Le plus dur était passé pour nous. L'ouvrage était régulier. Nous étions heureux. Mais le temps passait et rien de nouveau ne se faisait. L'ancien maire était redevenu le maître de la ville. Tout
tout allait comme autrefois. Le printemps vint et l'été. Mon père dit à l'autier, il faudrait parler aux camarades, il faudrait un endroit, nous ne faisons rien. Oui, François, j'y pensais aussi. Une maison du peuple et puis reformer la section. Ce sera difficile, François. Tant pis, on fera ce qu'on pourra, mais il faut recommencer. Ils se réunirent à nouveau à la maison, reformer une section, s'affilier à la section française de l'Internationale ouvrière. Les soirs d'hiver, ils arrivaient tout boueux, enveloppés dans des pèlerines raidies par l'eau comme des planches. On les entendait venir de loin, l'un après l'autre, dans la nuit. À travers le bruit de la pluie, deux galoches se mettaient à claquer sur les pavés. Voilà brillant, disait mon père. Il prêtait l'oreille. Il répétait, oui, c'est brillant. Brillant arrivait sous la véranda. Quel temps ? Ton père est là ? Il y a du monde ? Je lui répondais qu'il était le premier. Il laissait ses galoches à la porte, ôtait sa pèlerine en se frottant les mains pour se réchauffer. Il s'asseyait. La lumière colorait en rose ses joues ordinairement grises comme le plomb qu'il maniait toute la journée devant les casses de l'imprimerie Terrual. Et de temps en temps, il toussait. Le facteur Guénic entrait, le képi sur l'oreille. « Salut !» Sa grosse voix remplissait la pièce. Puis venaient les plâtriers, ceux des chemins de fer, et bientôt ils étaient une vingtaine. « Salut, 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 salut !» Les voix se mêlaient, on fumait, la pluie continuait de tomber dehors. Moi, je criais comme mon père. « Me renvoya !» Mais il m'oubliait, et je restais dans mon coin, sans bouger. Les camarades se plaignaient d'être délaissés par le parti qu'ils accusaient de réserver ses efforts à la région parisienne et aux départements avancés comme le Nord, tandis qu'ils ne faisaient rien pour un pays comme le nôtre, où le socialisme avait tant de mal à vivre. Un soir, Baillet leur dit, « Nous ne devons compter que sur nous. Maison du peuple. Il faut la bâtir nous-mêmes. 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 Et pourquoi pas ? » Il eut un long moment de silence. Dans la chambre, remplie de fumée, la lampe brillait comme à travers un brouillard. Baillet avait posé les mains sur la table devant lui et il attendait. Quand mon père rompit le silence, avec nos bras camarades, on peut bâtir. En y mettant chacun un peu du sien, on peut trouver l'argent et acheter le terrain. Le surlendemain, un camarade apporta chez nous un tronc pour la maison du peuple, que mon père accrocha au mur de son atelier. Un autre tronc fut installé à la bourse du travail. Les syndicats donnèrent de l'argent. Quelques mois plus tard, on acheta un petit terrain à la limite de la ville, au pied du tertre de la Vierge. Au beau temps, ils commencèrent les travaux. Le premier dimanche, mon père m'emmena. Il me fit lever de bonne heure et mettre de vieux habits. Il était un peu plus de 7 heures quand nous arrivâmes sur le terrain. Une dizaine de camarades étaient déjà à l'ouvrage. Pélo chantait, il n'y a plus de guerre, tous les rois sont morts. Il n'y a qu'en Angleterre qu'il existe encore. Salut, cria-t-il à mon père, tu nous amènes du renfort? À travers les trous remplis de cailloux et d'eau, je courus jusqu'à lui. Il me tendit la main. Salut! Salut, tu es venu travailler? Oui. J'enlevais ma veste. Et pour faire comme mon père et tous les autres, je retroussais les manches de ma chemise. Il faisait frais. Le ciel était encore rose du côté du tertre. La statue de la Vierge paraissait plus petite que d'habitude au-dessus des champs et l'on ne voyait personne. « Tu vas m'aider à charger ma boîte ?» me dit Louis. Il me donna une pelle. « Sauras-tu t'en servir ?»« Oui. » Bientôt, en effet, j'eus rempli une brouette de terre. « Bien, dit Louis, tu feras un bon manœuvre. » Il sourit et j'étais fier. À midi, Pélo cria « Ohé, rassemblement des outils !» On mit les outils en tas, puis on les chargea dans le tombereau du père Cosanet et chacun se rhabilla. Alors les camarades se réunirent autour de Baillet, qui leur donna tous un petit papier. Je m'approchai. « Attends, mais je veux t'en donner un, toi aussi. » Baillet me remit un petit carré de papier où il avait griffonné quelque chose. Je le
Rapporter à mon père, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu n'as qu'à lire. C'est un bon travail. Quand nous serons riches, on te remboursera de ta peine. Grand-mère en mourut. Deux jours après l'enterrement, il fallut aller à Mont-à-Regret régler les affaires avec son logeur. L'été passé, nous étions allés la voir un jeudi après-midi. Elle n'avait pas voulu nous laisser entrer chez elle. Elle nous avait emmenés dans une auberge au bord de la route et payé à chacun un petit verre de Malaga. Nous entrâmes tout droit à l'auberge. On nous donna la clé. Il fallut monter un petit escalier de pierre mal commode jusqu'à une vieille porte que ma mère hésita à ouvrir, mais quand elle l'ouvrit, c'était une soupente pavée en briques, avec une petite cheminée noire où le vent soufflait, un œil de bœuf l'éclairait. Contre le mur, qui tombait en morceaux, une paillasse était jetée par terre et dans un coin. Des vieux parapluies en tas. Voilà où elle logeait, dit ma mère. Une paillasse est toute crevée. Vous voyez, elle en tirait de la paille à poignée pour allumer son feu, comme elle devait avoir froid. Un souvenir me revint alors. 8 jours avant sa mort, nous étions allés ensemble tous les deux avec ma grand-mère chercher de la braise. Elle portait sous le bras un sac de grosse toile. Je traînais à une dizaine de pas derrière elle. Brusquement, elle s'était retournée. « Allons !» avait-elle crié. J'avais couru pour la rejoindre. Elle m'avait pris la main et m'avait dit « Mon pauvre petit, tu as honte de ta grand-mère. » Je l'avais suivie en silence et j'avais eu envie de pleurer. Ma mère s'était assise sur la paillasse et son long voile traînait par terre. Pourquoi sommes-nous venus ici? Je n'aurais pas dû. Elle ne voulait pas nous laisser voir son grabat. Elle était fière. Par terre, près des parapluies, il y avait un petit marteau de fer. Un petit marteau à longs manches et à tête fine. Son petit marteau, c'est avec cela qu'elle raccommodait ses parapluies. Regarde! Maman! Près de la cheminée, j'avais trouvé une petite vierge en plâtre. Emportez-la. Emportez aussi le petit marteau. Nous arrivâmes à la maison sans avoir dit une parole. Depuis, la petite vierge en plâtre est restée dans notre buffet. Et surtout, disait ma mère, n'allez pas me la casser. C'est elle qui nous donne le pain. Il ouvrit brutalement l'armoire et les battants claquèrent. « Brûle tout » cria-t-il, « tout ce qui reste !» Ma mère, qui ne cessait de courir d'une pièce à l'autre, oubliant toujours ce qu'elle cherchait dans son affolement, répondit « Oui, François, je ferai comme tu me diras. » Depuis le matin, des camions et des chevaux ne cessaient d'affluer sous nos fenêtres. Les sabots des bêtes martelaient durement la terre et les roues grinçaient. Le ronflement des moteurs couvrait les cris et les appels des hommes. Au-dessus de cette foule de capotes, une poussière blonde montait comme un nuage. « Mais qu'est-ce que tu cherches ? Mais je ne sais pas !» dit ma mère. « Je ne sais pas ce que je cherche !» On cria dans la cour. « François !» C'était le Bras. Il était debout près du portail, un petit baluchon à la main. « Adieu, François ! Monte ! Pas le temps !» Mon père, lui, devait partir que le lendemain. Dans la maison, il marchait sans dire un mot. Sur la place, c'était toujours le même bruit de camions et de chevaux et les cris. Il nous entraîna et nous montâmes à la gare. Il ne disait toujours rien, mais de temps en temps, je le voyais tressaillir. Ma mère lui tenait le bras. Elle tremblait. C'était partout des cris, des « Vive la France à Berlin !» À Berlin !
Une poussée de la foule nous porta dans la salle de la gare. Un train venait d'arriver, des voyageurs tâchaient de s'ouvrir un chemin. Et brusquement, la nouvelle courut de bouche en bouche. On a assassiné Jaurès. On a assassiné Jaurès. Le lendemain, au fin matin, mon père se mit en route. Il devait rejoindre un poste à une dizaine de kilomètres de chez nous sur la voie ferrée. Là-bas, on l'habillerait. Un fusil, des cartouches. Les champs étaient nus. Le chaume craquait sous les pieds. Comme il sortait d'un petit chemin, broyé par les lourdes roues des charrettes et jonché de paille fraîche, il vit la mer sur sa main droite. Elle était tranquille, blanche, dans la lumière du matin. Il n'y avait pas une voile et au champ personne encore, ni une bête. Il faisait doux comme à l'automne, mais les buées traînant au ras de la lande annonçaient que midi serait chaud.
Écrivain qui accompagna Marcel Maréchal depuis les débuts de son aventure théâtrale. Il le retrouve en 99 au Théâtre du Rond-Point avec la lecture de La Maison du Peuple comme un hommage rendu à l'écrivain mort en 1978. Dans son livre de souvenirs, Rome Limonade, Marcel Maréchal décrit ainsi sa rencontre avec Louis Guilloux. Louis aurait pu être un père par l'âge et l'expérience, mais est comme un frère que j'aime à l'appréhender, sans doute parce que les distances de tous ordres qu'il y a entre nous sont abolies par mon incarnation du héros du sang noir. En donnant une vie théâtrale à Cripure, je suis devenu frère de Louis, puisqu'aussi bien le philosophe est l'alter ego de son géniteur. Rencontre avec Marcel Maréchal à propos de La Maison du Peuple et de Louis Guilloux.
Il y avait tellement de connivence entre nous que je me sentais, malgré notre différence d'âge, comme avec un frère, quoi, comme avec un frère d'armes, un frère... en littérature, en combat aussi de la vie, quoi, et surtout sur le plan politique, enfin, sur son attitude politique, cette façon de vivre debout, vivant, tout en étant un créateur, ça m'a toujours fasciné. Pour moi, c'est pour ça que j'ai eu grand bonheur dans ma vie de le rencontrer et de rencontrer le personnage de Cripure et de rencontrer le sang noir et de le jouer. Et je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai pu faire dans ma vie et ça correspondait complètement à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire un théâtre qui soit ancré dans la réalité sociale et politique, dans la réalité de la société, dans la réalité du siècle et qui en même temps soit poétique, soit un peu du réalisme poétique, quoi, comme peut l'être je crois que c'est Jean Renoir qui a inventé ce mot pour lui-même, pour son cinéma. Ben, c'est vrai que Cripure, c'est un peu ma règle du jeu, quoi, moi.
La Maison du Peuple, ce texte qu'on a entendu, c'est aussi un très grand cri de révolte, en fait.
Oui, La Maison du Peuple, si vous voulez, c'est donc le premier roman. Il a écrit d'autres choses, mais c'est le premier roman, c'est la date de 1927. puisque Le Sang Noir est de 1935 et que j'ai joué il y a bien longtemps déjà Cripure, donc c'était en 67. Mais donc je fais en 1999, à la fin du siècle, pour fêter en quelque sorte, célébrer le 5e anniversaire de la naissance de Louis, je reviens à un texte de 1927 et bien que ce texte soit le précède Cripure dans la chronologie, pour moi, en tout cas dans mon travail, c'est une suite un peu à Cripure. C'est parce qu'il y a, tout le sang noir est déjà en gestation, dans quelque sorte, dans la maison du peuple. C'est la vie d'une famille, et notamment en premier plan du père, qui est militant, qui est cordonnier, mais en même temps cordonnier, donc artisan, son propre patron, mais qui en même temps, à cause de sa générosité, a des idées sociales, socialistes même, et progressistes, enfin socialistes au sens ou du mot au début du siècle, c'est-à-dire des idées très... Maintenant, socialisme, il y a eu la social-démocratie, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais être socialiste en 1906... c'était être révolutionnaire, quoi, carrément. C'était se mettre au banc de la société bourgeoise et capitaliste. C'était très très grave. Donc il est cordonnier et en même temps il a des idées progressistes, très avancées, des idées révolutionnaires et ça entraîne des conséquences fâcheuses pour sa famille, puisque à cette époque, en Bretagne, la Bretagne catholique, et, le Saint-Brieuc, c'était... Avoir ce type d'attitude, c'est tout d'un coup un acte de courage inouï, en même temps avec des conséquences terribles pour sa famille. C'est-à-dire que c'est le chômage, c'est la mise au banc de la société. Et alors, donc, c'est le récit des luttes de cet homme, des luttes politiques et des luttes syndicales, et vu, et avec toutes les conséquences que ça a, et pour lui, le cordonnier, et pour sa famille, qui vit dans le plus grand dénuement. Et ça, c'est vu par les yeux d'un enfant. C'est Louis Guillou qui, enfant, regarde son père vivre. Et c'est un constat à la fois admiratif et en même temps, je dirais, généreusement critique aussi. Parce que, enfin, il ne porte pas vraiment de jugement, mais moi, il m'a toujours dit que. Il avait toujours vécu là-dedans et qu'il était très méfiant, en même temps qu'il avait une certaine admiration pour son père. Il m'a souvent dit, il me l'a souvent répété, « Oh, tu sais, mon père, c'était un révolutionnaire, mais à la maison, c'était un fasciste. Hein » Je veux dire que...
Fasciste, c'était un mot très fort.
Oui. Enfin, c'était un mot très fort, mais sans doute son père était... C'était une façon, il disait ça en souriant, mais il disait par là qu'on a beau être... C'est pas parce qu'on est révolutionnaire... comme ça, qu'on se conduit d'une façon forcément révolutionnaire avec ses enfants, avec ses parents, enfin. Mais c'était pas une critique, c'est-à-dire que c'était justement, c'est ce qu'il y a de beau chez Louis Guillou, c'est qu'il ne s'est jamais il n'a jamais vécu dans les illusions, il sait très bien, son idéal je crois, c'était la révolution, c'était l'homme nouveau, ça l'a été même à la fin de sa vie, mais il savait très bien que tout ça, c'était pas facile et qu'on n'avait encore rien connu de ce rêve qui était né au début du siècle. Mais il est mort quand même, il est mort en 1978 en croyant encore à des possibilités. Mais c'est ça qui est beau, quoi. C'est que, en fait, si vous voulez, moi ce qui me fascine dans le destin de Louis Guillou, c'est que je crois que c'est quand même le grand écrivain de la gauche, le grand écrivain qui parle d'ailleurs, Albert Camus l'a dit, il est issu du peuple et il en parle mieux que personne, en même temps qu'il a été un compagnon de route des communistes. Il a été du voyage d'André Gide en 1936 en Union soviétique, en même temps qu'il a toujours été très proche des causes, encore une fois. Il n'a jamais été encarté, il a toujours gardé une espèce de distance, sans doute à cause de son enfance, hein, sans doute justement parce qu'il a vu, les errements aussi de son père, il a vu comme quoi l'engagement militant, c'était beau, mais en même temps, on peut pas dire non plus qu'il a été dégagé, parce que c'est pas vrai, mais il a fait de l'engagement une chose personnelle, et ça qui me plaît, et non pas l'engagement dans une mouvance, dans un parti. Hein. Ce qui compte, c'est d'être engagé dans sa vie. Il a été toute sa vie engagé dans toutes les causes. N'oublions pas qu'il a été secrétaire du Congrès des écrivains antifascistes. Il a milité avec le Secours Rouge pour la cause espagnole. Il a fait des choses pratiques. Hein. Il a toujours. J'ai toujours aimé cette espèce de recul vis-à-vis du phénomène de masse de la politique. Et puis, enfin, il est le premier créateur et intellectuel français à avoir vu l'imposture du stalinisme, quoi. Enfin, et du maoïsme aussi. Enfin, c'est lui qui m'a. Alors, il était. Mais vous comprenez, il suffit de s'informer, quoi. Enfin, il suffit d'être honnête. Par exemple, il y a un livre de Simon Lès qui est sorti, je crois, en 1971, qui s'appelait Les amis neufs du président Mao. Bon, c'est Louis Guillou qui me l'a fait lire. Et en même temps, quand je parlais de ce livre à des types qui étaient Mao, ils disaient, mais quoi ce livre, c'est une pourriture, mais Mao, c'est un génie et tout. Hein, les mêmes personnes qui maintenant, qui après ont dénoncé le stalinisme. Enfin, je ne citerai pas de nom, mais il y a des noms célèbres, et des gens qu'on voit à la télévision, et des écrivains qu'on voit en première page des magazines. Bon.
Ce dont il parle aussi, par exemple, dans La Maison du Peuple, c'est que vous parlez de cette indépendance que Louis Guillou a eue, comme ça, toujours, de son engagement politique personnel, individuel. Mais par exemple, quand il parle de son père, il parle de ses trahisons aussi. Pas les trahisons du père, mais les trahisons que rencontrent des militants comme lui.
Ah, oui.
Hein, puisqu'à un moment, il est effectivement trahi par ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie.
Oui. Absolument. Ah, oui, bah ça, la Maison du Peuple. Toute la ça c'est une constante dans la pensée de Liu, c'est que les idéaux généreux sont trahis par les sociaux-démocrates ou par d'autres. Enfin, ça revient tout le temps. On n'est pas seulement trahi par les bourgeois, on est trahi quelquefois par les siens, qui ne sont pas vraiment les siens d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est un des grands thèmes de la Maison du Peuple. Et arrivant à la fin de ce siècle, c'est génial ce livre, parce que c'est bien évident que toutes les luttes ouvrières et syndicales de ce siècle, et pas seulement en France, mais dans le monde entier, ont été trahies. Enfin, je veux dire.
Le personnage du père. Là, ce qu'il a de complètement bouleversant, en fait, c'est cette espèce de radicalité, parce que c'est à un moment, on le décrit comme c'est pas la bonne expression, mais comme une sorte de tête de bois, quelqu'un
oui.
qui ira toujours jusqu'au
forte
bout,
tête.
Forte tête,
oui,
hein,
oui.
Et qui va jusqu'au bout de son chemin, oui. qui d'une certaine manière, qui a une intégrité
oui,
extraordinaire.
Il dit à propos de son père qui c'est dur au travail, riche ouvrier, c'est beau ça, riche ouvrier. Est-ce qu'on peut. Est-ce que c'est pas par hasard ces deux mots mis ensemble? Riche ouvrier. Riche ouvrier, dur au labeur et pas buveur, mais forte tête. Oui.
C'est-à-dire c'est l'image d'un homme qui ne plie pas,
absolument.
Un homme qui refuse
ça, c'est
toute humiliation, oui. Un homme qui va de toute façon.
Et ça, c'est Louis aussi. C'est Louis aussi. Il dit quand même dans son dernier interview qu'il nous a accordé à nous, à François Bourgeois, il dit je mourrai debout. Et ça, c'était vraiment ça. Ouais. C'est... Oui, son père a été victime de trahison des sociaux-démocrates, mais il a commencé. Et l'histoire de la Maison du Peuple, justement, c'est pour ça que c'est un livre tout à fait optimiste, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent, ils ont été trahis, ils se retrouvent à nouveau dans la cuisine du cordonnier ou dans les shops, je me rappelle plus exactement, et on recommence, et on fait la Maison du Peuple, et bon, ça c'est moi je suis très ému en lisant ce texte, parce que il y a une profondeur,
il y a un très beau personnage de femme, parce que
oui.
La mère est extraordinaire, parce qu'elle est d'une solidarité exemplaire, c'est... finalement avec son mari, tout en souffrant aussi de cet entêtement.
Oui, la mère qui sans doute d'ailleurs est catholique, enfin, et qui est sans doute pratiquante, enfin. Mais là, il ne s'explique pas là-dessus, parce qu'il ne le dit pas clairement, mais on sent qu'elle est donc, qu'elle ne partage pas forcément les idées, l'idéologie de son mari, mais qu'elle est totalement solidaire et totalement avec un pragmatisme je dirais, héroïque, quoi. Enfin, puisque quand il est au chômage, c'est magnifique. Quand elle décide, elle lui dit mais qu'est-ce que tu as ? Il arrive un jour à la maison, ben, je suis rentier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, quoi, je suis au chômage. Je n'ai plus d'ouvrage, donc ça veut dire que je suis au chômage. Elle dit rien. Je ne sais pas exactement les phrases, hein, mais elle se tait un moment. Elle va dans sa cuisine, et puis elle dit avec la plus grande énergie, t'en fais pas, on trouvera de l'ouvrage, tu auras de l'ouvrage. Et c'est, effectivement, elle prend son sac, elle va chercher des souliers dans la ville, elle revient avec 5 paires de souliers, enfin, et puis les choses, grâce à elle, non, c'est très très beau. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir comme... comme ce travail de mise en espace, de mise en voie et de mise en espace aussi, qui était à l'origine un substitut au fait que je n'ai pas pu reprendre Crépure. Je voulais reprendre Crépure. Tous les amis de Louis Guillot voulaient qu'on reprenne Crépure pour le centième anniversaire. Il se trouve que je n'ai pas les moyens. Vous connaissez la situation du théâtre du Rond-Point. L'avenir est totalement incertain. Enfin, je dois sans doute quitter ce lieu au 1er janvier de l'an 2000. On ne m'a pas laissé la possibilité de fêter ce grand écrivain socialiste, en quelque sorte. Il y a un paradoxe, là, quelque part. Bon, enfin, bon. Mais, alors, par défaut et substitution, je me suis dit, je vais faire un travail sur la maison du peuple. Mais évidemment, c'est la maison du peuple, c'est un travail solitaire, c'est une mise en espace et tout. C'était un peu tristement que je devais faire ça. Je suis absolument euphorique, joyeux et tout, parce que c'est devenu un spectacle, c'est devenu quelque chose qui a énormément touché les gens, et qu'on va à tel point que on va le reprendre. Et on va le jouer, je crois, en octobre, novembre, décembre, on va le jouer tous les jours. Voilà.
De théâtre par la mise en scène, en fait. Puis oui. Après, le fait de jouer, l'acteur est venu après le metteur en scène, d'une certaine manière.
Oui.
Mais dans votre travail, vous avez toujours eu envie, finalement, de faire entendre des textes,
oui.
de transmettre des textes, de dire les choses,
oui,
finalement.
Oui.
Et aujourd'hui, par exemple, c'était absolument, j'imagine, impensable pour vous de ne pas dire, de ne pas jouer, on pourrait dire, la maison du peuple. C'était
ah oui,
important, comme ça, symboliquement même, de pouvoir le dire vous-même.
Oui. Ah oui, très important. Oui. Très important parce que c'est pas moi qui parle, c'est Louis qui parle. Et comme il n'est plus là, il parle à travers moi. Je ne suis qu'un truchement, quoi, qu'un interprète, c'est le cas de le dire. Et c'était important. Et il n'y a que moi, de mon point de vue, qui pouvait le faire, parce que j'ai été quand même... Crépure trois fois dans ma vie. C'était une très très grande rencontre avec un personnage qui me hante encore, et avec Crépure, c'est aussi Louis Guillot quelque part. Donc c'est tout à fait étonnant. Vous savez, dans une vie d'artiste, on fait des choses plus ou moins importantes, et puis il y a des choses qui sont absolument nécessaires. Là, la maison du peuple, c'est comme tout ce que j'ai fait avec Vautier, ça participe d'une espèce de nécessité aussi. Mais je dois dire que dans toute cette aventure, j'ai eu la complicité de Bourgeat. François Bourgeat, qui est un ami, en plus, François Bourgeat est un ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Et à peu près, vous voyez un peu le parcours, et je n'aurais pas pu le faire sans lui. Parce que il a choisi le texte, évidemment, j'ai donné mon avis, et puis après, il m'a guidé. Je n'ai fait qu'une chose, moi, c'est de choisir la musique. J'ai choisi les musiques de Beethoven, les sonates de la fin de l'opus 111 et tout, parce que je trouvais que ça correspondait à Louis. et puis évidemment la chanson de Crown. Mais François, bon, il y a eu comme une chose très riche qui s'est passée entre Guillou, Bourgeat et Maréchal, quoi.
Et avec Guillou, avec un texte comme ça, vous, tout en étant dans un grand théâtre parisien comme ça, vous restez fidèle finalement à,
oui,
à quelque chose,
oui,
de...
Oui, oui, ça me fait très plaisir d'ailleurs de terminer.
Chez vous, de votre vie.
Voilà. D'ailleurs, je vais sans doute jouer ça à partir du mois d'octobre jusqu'au 31 décembre. Et je vais terminer, puisque je vais remettre les clés à mon successeur le 1er janvier. C'est une jubilation extraordinaire pour moi de jusqu'au dernier souffle que je vais vivre dans ce théâtre, d'être fidèle à moi-même, enfin, et à mes auteurs.
C'était La Maison du Peuple de Louis Guillou. Lecture par Marcel Maréchal. Mise en espace François Bourgeat. Enregistré au Théâtre du Rond-Point, salle Jean Vautier, en février 1999. Prise de son Pierre Mine. Montage Michel Gassic. Réalisation Blandine Masson. Romancier des humiliés, Louis Guillou a dépeint son siècle dans toute son inhumanité, dans les nuits, relais d'une plume aiguisée, avec le regard d'un cinéaste sur nos lieux de violence. Une émission de Michel Simon.
Projection privée. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jacques Doyon pour la sortie de son film Petit Frère, qui est sur les écrans depuis le 7 avril. Jacques Doyon, on peut dire que votre filmographie, c'est un peu systole-diastole, c'est-à-dire que vous alternez des films, disons, sur des problèmes de couple ou des nœuds familiaux, et puis d'autre part, des films sur l'enfance, sur la jeunesse. j'avais fait venir Lambert Wilson pour parler de Trop peu d'amour la dernière fois, qui était votre film précédent, où d'ailleurs il y avait un personnage aussi de jeune fille, d'adolescente, mais qui était centrale, mais était entourée d'un noyau familial. Et puis cette fois-ci, vous avez donc fait ce film Petit Frère, qui est un film, je dois dire, vous nous surprenez souvent, parce que votre façon de filmer ou votre approche des sujets peut être très différente. Par exemple, quand on a vu Ponette, bon, et que là on voit Petit Frère, il y a quand même une grande différence. C'est donc un film sur la... Bon, pas sur la banlieue, parce que c'est pas un film qui a un sujet, je dirais, c'est pas un film à thématique, mais disons qu'il se déroule en banlieue, avec au centre donc une jeune adolescente, et puis quatre garçons qui ont entre 13-14 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a incité? Est-ce parce que vous sentiez que la banlieue n'était pas représentée comme elle était vraiment, ou est-ce que vous êtes parti sans a priori pour faire ce film?
Surtout sans a priori, pour éviter le plus de clichés possible. Mais quand vous disiez film très différent en citant Ponette, moi, au contraire, je les vois fonctionnant très bien ensemble. Et ça sera une façon de vous répondre certainement, de dire que le personnage de Ponette, comme le personnage du petit criminel, comme le personnage de beaucoup d'enfants dans les films, comme celui de Thalia dans ce dernier film, dans Petit Frère, ils ont une même vaillance, une même ardeur, et c'est des enfants qui ne renoncent pas. Donc, je dirais, le décor peut changer. Mais là où je suis peut-être un peu dans le radotage, c'est du côté de ces enfants si vaillants, si résistants et jamais collabos.
Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est le critique, le journaliste qui parle mise en scène, et c'est le metteur en scène qui répond par la thématique. Parce que c'est vrai qu'il y a un rapport sur la ténacité, je comptais d'ailleurs en parler. Ouais. Mais je parlais de la façon de filmer. Je trouve que dans Petit Frère, c'est plus proche à ce moment-là du jeune Werther. C'est-à-dire, il y a énormément de mouvements d'appareil, une caméra extrêmement fluide qui suit, qui court, qui suit les personnages, une sorte d'élan permanent. Alors que Ponette était un film beaucoup plus recueilli, disons qu'il était plus, il me semble. Dans votre façon de filmer, je
pense. Oui, mais je sais plus si j'ai une façon de filmer. Il me semble que le film impose une façon de filmer, et les enfants, plutôt qu'on filme, imposent une façon de filmer. Moi, je voyais des enfants en mouvement avec une incroyable liberté dans leur corps, dans leur mouvement et dans leur dans la façon dont ils aussi mentalement, dont ils pouvaient très vite passer d'un sujet à un autre, naviguer, se laisser embarquer. Et il me semble qu'à chaque fois, il faut s'adapter à ce que l'on filme. Aussi, il y a des raisons parfois budgétaires, tout simplement, qui fait que c'est compliqué, qu'on a un peu moins d'argent ou un peu plus d'argent. Et encore... ça me paraissait difficile dans une cité d'arriver avec des travelling, avec Hollywood débarquant dans une cité de la banlieue parisienne. Du côté de la morale, c'est un peu compliqué quand même.
Alors, ce tournage, donc, est fait souvent caméra à la main, caméra à l'épaule même.
Non, c'est caméra à la main. C'est exactement ça, parce que la caméra n'est jamais sur l'épaule, ou pratiquement jamais. On avait un assez grand opérateur, et Manuel Terron, absolument, et je voulais surtout qu'il filme à la main, ce qui était un peu plus difficile, mais je voulais pas qu'on plonge sur ces enfants, je voulais qu'on soit avec ces enfants.
Mais vous ne tenez pas la caméra, jamais?
Ça m'est arrivé dans quelques scènes, là où il me semblait qu'il fallait, c'était plus facile de faire des scènes un peu compliquées, un peu dangereuses, je dirais, où il me semblait que c'était plus simple de... d'en avoir deux. Donc dans ces cas-là, je prends la deuxième parce que ça m'amuse un peu.
Et il peut être joli en même temps. Donc c'est pareil, tout cet univers-là du graffiti, il peut être businessable, et en même temps il peut rester ce qu'il est, c'est-à-dire authentique comme il est né.
Donc est-ce que tu penses que toi le tag est synonyme de poésie dans le monde gris et urbain dans lequel on vit?
Ouais, c'est clair. C'est de la couleur déjà. Donc, voir un mur gris, par exemple, comme les murs de la cité, ou des murs crado, je sais pas, vaut mieux qu'il y ait un tag dessus. Ça, c'est clair, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère voir un mur crado avec un tag qu'un mur crado, point.
Attends, est-ce que tu penses qu'un jour, dans les grandes écoles, celles des Beaux-Arts, on pourra étudier l'art du tag et du graffiti?
Alors, moi, ça, j'ai un point de vue net là-dessus. Bien sûr qu'il sera étudié en tant que mouvement... social qu'il y a eu à une époque du graffiti, ça sera étudié comme n'importe quel mouvement ou littéraire ou artistique, ça c'est clair.
Le 25 janvier 1999, Louis Guillou aurait eu 100 ans. Cet anniversaire nous permet de retrouver cet écrivain quelque peu oublié. Il nous est revenu avec la biographie qu'Yves Loisel lui a consacrée aux éditions Comgrès, mais aussi avec la publication de nouvelles jusque-là inédites. 20 ans, ma belle âge, aux éditions Gallimard, et chez le même éditeur, un roman inachevé, Labyrinthe. Et pour l'instant, dans les nuits de l'auteur du Sang noir et du Pain des rêves, chronique des luttes sociales en Bretagne, avec la lecture de son premier roman, paru en 1927, La maison du peuple, inspiré des humiliations vécues par un père cordonnier, une dette peut-être payée à son égard, mais aussi à celui de ses camarades d'enfance, ceux de Saint-Brieuc, où il était né. Roman des humbles qui, dans les pires tourments, reste debout. Rigueur, dureté et violence. La maison du peuple de Louis Guillou, lu par Marcel Maréchal, mise en espace François Bourgeat, enregistré au théâtre du Rond-Point, dans la salle Jean Vautier, le 19 février 1999.
Mes parents vinrent loger dans trois petites mansardes à l'autre bout de la ville. Par bonheur, ces mansardes étaient pleines de lumière. Les deux plus belles ouvraient sur le parc de la préfecture et les fenêtres, on ne voyait que des arbres dans le ciel. L'une servait de cuisine. C'est là aussi que nous couchions, mes sœurs et moi, dans des lits que mon père nous avait fabriqués avec des planches. Dans l'autre, mes parents avaient fait leur chambre, que nous appelions la belle chambre, parce que leurs objets les plus précieux y étaient rassemblés. On ne pouvait loger dans la troisième, elle était trop étroite et tenait lieu de débarras. Mais de sa fenêtre, on dominait la pleine campagne, un beau tertre surmonté d'une vierge en pierre et le jardin de notre voisin, Monsieur Lemoyle. Sa petite fille, Jeanne, venait y jouer et nous nous penchions à la fenêtre pour la voir. La propriétaire interdit à mon père d'exercer son métier de cordonnier dans ses mansardes à cause des coups de marteau. Il fallut se mettre en quête d'une échoppe. Il en trouva une non loin de la maison, elle était bien étroite, et le quartier peu commerçant, pourtant, dit-il, c'est une chance de l'avoir. Le veilloir de mon père était bas et carré, encombré d'outils et de petites boîtes rondes en fer remplies de chevilles et de semences. Sous le veilloir, parmi des retailles que nous appelions du bourrier et que nous gardions pour faire du feu en hiver, il y avait un baquet de bois plein d'eau où il mettait son cuir à tremper. Le fond de l'échoppe était couvert de chaussures à accommoder. À cette époque, les idées nouvelles commençaient à se répandre chez les ouvriers, surtout chez les jeunes. Et l'on parlait déjà du docteur Robal qui venait de fonder son journal Le Renouveau. Les vieux haussaient les épaules. « Vous nous faites rire avec vos syndicats. Tout ça, c'est de la politique. Vous nous ferez du tort. » Depuis plus de 40 ans qu'il était sur le métier, mon grand-père n'avait jamais cessé de verser sa cotisation à la Société de Secours Mutuel. Il était vieux et usé. « Mais qu'est-ce que tu veux de plus ?» disait-il à mon père. « Si tu es malade, on t'envoie un médecin et la société te paie un bout de frais. » Il ne craignait que la maladie. Et puisqu'il fallait travailler tant qu'il avait des bras, il ne se plaignait pas. « Bien sûr, répondait mon père, mais tu ne me feras pas croire que si les ouvriers étaient organisés, ils ne seraient pas un peu mieux. »« Bah, le monde est comme il est, tu ne le changeras pas. » Mon grand-père avait toujours travaillé pour M. Saris, qui lui avait fait donner la médaille des bons serviteurs. Il avait mis cette médaille dans un cadre qui était accroché au mur. « Tant que t'as pas un mauvais patron, de quoi as-tu à te plaindre ?» Le père Saris a besoin de toi. Il viendra bien un jour où il te dira merci. Eh bien, j'irai à l'hôpital. Il riait, le brèche-dent sous sa grosse moustache roussie par la cigarette, et il disait, tu n'as pas à t'occuper de ton patron, toi, puisque tu es à ton compte. Dans l'esprit de mon grand-père, le patron était un homme qu'on devait respecter plus qu'un autre. Il donnait le travail. Et le travail, c'est la vie. Laisse la politique tranquille, disait-il. Ton docteur Robal te fera du tort. Quand on a trois gosses à élever, il ne faut pas se mettre le monde à dos. On était venu lui raconter que son gars ne se cachait pas assez. Dans une ville comme la nôtre, il faut savoir se surveiller. Votre gars, il fait parler de lui. Il soutient le docteur Robal. Mon gars, vous ne le connaissez pas. C'est un brise-fer. Quand il a quelque chose dans la tête, on a beau lui dire, c'est comme si on chantait. S'il voulait pourtant rester tranquille, il aurait une jolie petite boule à rouler. C'est un riche ouvrier, dur au labeur et pas buveur, mais trop forte tête. Mon père, qui se levait avant le jour, ne quittait jamais son travail avant 8 ou 9 heures du soir. Des camarades qui finissaient à 7 heures passaient devant son échoppe en remontant à la soupe. Ils entraient le voir. Il était penché sur son ouvrage, le front lié à l'abat-jour vert de sa lampe à pétrole, une grosse lampe de cuivre que l'on voyait de loin. Les camarades s'asseyaient au hasard sur un tas de souliers, sur un tas de tabourets ou par terre. En hiver, il faisait toujours bon le soir dans les shops. La lampe répandait sa chaleur. C'était le seul moment de la journée où mon père n'eut pas froid. Quand il faisait beau, la porte restait grande ouverte, il y avait une petite marche pour entrer et il était bien rare que personne n'y fût assis. Pello aimait y venir. C'était un plâtrier grand et mince comme une latte. Il avait de petites rondelles de plâtre plein les cheveux et la moustache. Assis sur le devant de la porte, il laissait traîner ses jambes sur le trottoir. Son pantalon de velours blanc à côtes était trop court. On voyait ses chaussettes de grosse laine rouge qui retombaient sur ses brodequins difformes, mangés par la chaux. Mais l'hiver, on ne devinait que des ombres à travers les vitres brumeuses de la porte. Parfois, un éclat de voix passait au dehors, brusquement couvert par la charge du marteau battant le cuir sur la pierre. Dans les shops, la discussion se poursuivait. « Pélo prétend, disait le Bras, qu'on fait tout pour l'ouvrier aujourd'hui. Mais moi, je te dis que c'est du battage électoral. » La violence de Lebras faisait rire Pélo. Tu es un paquet de nerfs, Lebras, tu montes comme une soupe au lait. Dès qu'il parlait, Lebras, qui était un petit homme sec et ardent, se mettait à danser d'un pied sur l'autre. Les veines de son cou se gonflaient. Il avait une pomme d'Adam énorme qui roulait dans sa gorge comme une bête prisonnière. Depuis sa laryngite, il était toujours enroué. Il agitait les mains en parlant, des mains faites pour se confondre avec la varlope, noueuse et carrée, dure et trop large. Il avait toujours l'air d'en menacer quelqu'un. « Comment veux-tu ? Les bourgeois essaient de nous endormir. Il n'y a rien à faire avec eux. » Pourtant, lui dit un jour Pélo, « Tu vois bien qu'ils ont monté une université populaire dans le haut de la rue des Lormes. Ah, le Bras éclata de rire. « Oui, j'y suis allé. » Il y avait dans son rire quelque chose d'amer, comme le souvenir d'une offense ou d'une sottise. « Qu'est-ce que tu veux que les ouvriers aillent s'intéresser à des conférences sur le costume des femmes, sur l'éducation anglaise ou sur l'Indochine ? C'est ça qu'ils appellent éduquer le peuple. Ils ne nous connaissent pas. Ils veulent nous flatter et se servir de nous. Quand j'ai vu le maire, le docteur Robal, le vieux sénateur Mézard, monsieur de Kerler et toute la coterie se mettre d'ensemble pour prendre la tête de la fameuse université, je me suis dit... » Ses grosses mains tendues, ouvertes devant mon père, en racontaient plus long que des paroles. « Ce qu'il faut, c'est nous grouper et lutter ensemble. » « C'est vrai, dit Pélo, il faut lutter, pourtant, nous sommes tous des hommes. » Cette parole atteignit le Bras en plein cœur. « Pélo, j'ai pas la haine des bourgeois, dit personne. Mais que veux-tu ? La haine, quand même !» Nous vivions de peu. Le métier de mon père
ne rapportait pas grand-chose. Il fallait qu'il travaille longtemps pour gagner une petite journée. Il passait quelquefois la nuit entière au travail. Au petit jour, ma mère allait lui porter son café. Comme mes sœurs, plus âgées que moi, étaient à l'école, je restais seul avec ma mère une grande partie de la journée. En faisant son ouvrage, elle me racontait l'histoire du cousin de Paris ou le naufrage de mon oncle Charles à Madagascar. Souvent aussi, ma grand-mère venait nous voir. Elle habitait à plus de 3 kilomètres de la ville et faisait le métier de raccommodeuse de parapluies. Ma mère se tourmentait à penser comment elle vivait et si elle avait seulement de quoi manger tous les jours, c'est qu'elle ne dirait rien, par fierté. C'était pour moi une fête de la voir. Elle m'apportait toujours quelque chose, souvent un objet trouvé sur la route. Dès qu'elle arrivait, ma mère sortait du buffet tout ce qu'il y avait à manger. « Tu vas bien prendre quelque chose ?» La grand-mère refusait. « Mais si, bien sûr !» Et enfin, elle se mettait à table, elle mangeait de bon appétit, et ma mère la regardait en hochant la tête. « As-tu fait beaucoup de parapluies ?»« Oh, ben, pas beaucoup ces temps-ci, juste de quoi ?»« As-tu tout ce qu'il te faut quand même ?»« Mais oui, mais oui !»« Allons, tu peux me dire à moi la vérité. Ne te tracasse donc pas pour moi !» Elle se hâtait de repartir avant la tombée de la nuit, et nous nous mettions à la fenêtre pour la voir encore un peu. Nous la suivions des yeux. Elle était haute et droite, et marchait d'un pas ferme. Sa longue jupe noire traînait par terre, et son petit bonnet de dentelle blanche frémissait au vent. Elle apprit qu'une section socialiste venait d'être fondée. Ma mère demanda « Alors François, qu'est-ce qui va arriver ?»« Comment, dit mon père, ben, j'espère bien que la révolution n'est pas loin. » Elle leva les bras au ciel. « Bien sûr que oui, dit-il, la révolution. » Qu'est-ce qu'il racontait là? Avait-on besoin de révolution? Et la misère qui viendrait? On était bien assez malheureux sans ça. Et les trois gosses? Ben, c'est justement... Tu n'aurais pas dû te fourrer là-dedans, François. Un sang bouillant comme toi, s'il arrive quelque chose, tu seras le premier qui attrapera. Il le faut. Ce n'est pas moi qui te retiendrai, François. Tu es assez grand, mais ne te laisse pas entraîner trop loin. N'aie pas peur. Il avait beau dire, elle n'était pas tranquille. Elle sentait bien que tout cela venait du docteur Robal. Le docteur n'avait rien à perdre et pas de petits enfants à élever. Mais si l'ouvrage venait à manquer, comment ferait-elle? Elle ne pouvait pas non plus obliger son homme à se cacher. Elle lui dit, « Tu as ta fierté d'homme. » « Oui, oui, et je l'aurai jusqu'à la fin. Personne ne me fera taire mes idées. » Il marchait dans la cuisine pour se réchauffer les pieds pendant qu'elle trempait la soupe. « C'est depuis que le docteur Robal est ici, pensa-t-elle. Tout est changé. C'est un brave homme, sans lui et sans Faber. » Nous en serions toujours au même point. Faber, c'est un professeur du collège, un savant, un petit bonhomme avec des lorgnons et une barbiche. Mais quand il parle, il se rappelait l'arrivée de Faber le soir de la semaine précédente où Louis Lautier, Briand, Lebras, Pellot, Baillet, Marlier et quelques autres s'étaient réunis chez le docteur pour fonder la section. Si tu l'avais entendu nous expliquer le socialisme, ah, je ne sais pas, mais c'était tellement bien ça. Mes amis, la lutte à laquelle nous vous convions est une lutte magnifique. Il ne faut pas que personne reste en arrière. Oui, c'était cela. Son cœur battait, c'était cela qu'il avait pressenti ou pensé lui-même en maniant les savates. Il n'avait d'abord été qu'une dizaine. 2 mois après la fondation de la section, ils étaient plus de 40. Les yeux de Faber brillaient de joie. Mes amis, si nous avons pu en si peu de temps faire de tels progrès, dans 2 ou 3 ans, nous serons les maîtres. Le docteur approuvait et disait, « Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, faites de la propagande, amenez-nous des camarades. » Quand un ouvrier venait à son échoppe, mon père trouvait le moyen de lui demander, « Es-tu syndiqué ? »
Si l'autre répondait que non, il lui expliquait « Mais qu'est-ce que tu feras tout seul? Les bourgeois sont plus malins que toi, ils te roulent. Si tous les compagnons veulent se sentir un peu les coudes !» Le malheureux était gêné, il hochait la tête. « Bien sûr, je dis pas que non. » Souvent, il finissait par avouer que la bourgeoise ne voulait pas entendre parler de cela. « L'éducation des femmes est une chose qui se fera lentement, » disait le docteur. « Surtout dans la classe ouvrière. Il faut prendre patience. J'ai toujours défendu les femmes et je les défendrai toujours. Pour un homme qui obéit à sa femme, combien d'autres femmes sont trompées, volées, battues? Dans ce pays, tout est à faire. Et comment lutter? La municipalité ne fait rien. Une ville doit être administrée pour le bien de tous et non pour le profit de quelques-uns. Il n'est pas juste que l'argent des contribuables de notre ville ne serve qu'à faire des travaux dont l'armateur Loden a besoin ou pas. Non, non, hein, ben non, c'est pas juste, répétaient les camarades. Il faut dénoncer ce qui n'est pas juste. Parce que je dis la vérité, on m'attaque bassement. Vous connaissez les articles des journaux réactionnaires et les bruits qui circulent en ville sur mon compte. On dit que je suis un révolutionnaire, un incendiaire. Eh bien, oui, je suis un incendiaire. Mais c'est en conscience que je mets le feu. Suivez-moi seulement, et nous irons loin. C'est un chef, dit quelqu'un. Si nous avons confiance en lui, la partie est gagnée. Un jour, en rentrant de son travail, mon père annonça joyeusement « C'est la grève !» Le soir où la manifestation devait avoir lieu, il quitta la maison dès 7 heures. Il faisait déjà nuit. Ma mère se mit à raccommoder une couverture et pour travailler plus à son aise, elle s'assit sur le plancher. Nous étions dans la cuisine. Nous la regardions faire. C'était une couverture à larges carreaux rouges et verts. Tout d'un coup, elle se dressa et courut à la fenêtre. « Écoutez !» Elle prêtait l'oreille en nous faisant signe de nous taire. Nous la regardions sans bouger. « Mais oui, les voilà !» Elle me souleva dans ses bras et m'assit devant elle sur l'appui de la fenêtre. Anne et Louise étaient serrées contre elle. La rue était noire et humide. Devant nous, le réverbère n'éclairait pas plus qu'une bougie. « Ils viennent !» Ne vous penchez pas. Une rumeur arriva jusqu'à nous. Dans la rue, sous le réverbère, la foule bouillonnait, les pieds clapotaient dans les flaques. Il y avait des cris, de longs coups de sifflet qui traversaient le champ révolutionnaire. « Mon Dieu, dit ma mère, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Elle aperçut le drapeau rouge. « Vous voyez le drapeau? Vite, vite, il va passer. Je le vois. Où est papa? Avec eux, par là !» La foule disparut aussi brusquement qu'elle était arrivée. « C'est fini, dit ma mère. Fermons la fenêtre. » Ses lèvres tremblaient. C'est alors qu'il se produisit un fait étrange. Ma mère, immobile au milieu de la cuisine, se mit tout à coup à fredonner un air de danse. Elle me saisit la main. « Allons, Louise, donne-moi la main, toi aussi. Et toi, petite Anne, donne la main à Louise. » Nous nous tenions tous les quatre par la main. Elle fredonnait de plus en plus fort en nous entraînant. « Allons, vous ne dansez pas si vite, dansez. Quand les gueux dansent, les guenilles. Quand les gueux dansent, les guenilles vont au vent. » Elle serrait ma main, me faisait mal. « Trop vite, maman, trop vite, j'ai mal, dansez donc. Sont-ils mieux, les gens qui sont riches, sont-ils mieux que moi qui n'ai rien? Assez, allons, encore continuer danser. Sont-ils mieux les gens qui sont riches? Sont-ils mieux que moi qui n'ai rien? Je tourne et je vire et je viens. Je n'ai pas peur de perdre mon bien. Je tourne et je vire et je viens. Je n'ai pas peur de perdre mon bien. Elle s'arrêta, à bout de souffle. Nous n'en pouvions plus. Elle nous regardait, des larmes plein les yeux. Le lendemain, Marlier tomba à l'échoppe de mon père. Faber est déplacé. Il s'en va après-demain. Mon père avait blêmi. Marlier souriait tristement. Il prend le bateau, il va à Bordeaux pour commencer. Mon père regardait droit devant lui. De colère, il jeta son tranchet sur le veilloire. Merde ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut rien faire. À midi, il rentra à la maison, l'air agité, il dit à ma mère : donne-moi vite à manger. Il faut que j'aille voir Faber, il est déplacé. C'est-à-dire, on le renvoie. Oui, il part après-demain. Voilà ce qui arrive. On le renvoie à cause de la politique. Est-ce que tu ne me disais pas qu'il avait une petite fille ? Si, une petite fille de 10 ans. Ah, c'est malheureux, qu'est-ce qu'ils vont devenir à présent ? Le bateau qui emmenait Faber devait quitter le port à 3 heures après-midi, avec la marée. La veille, les camarades avaient décidé de faire un pas de conduite à Faber. À 1 heure, ils étaient plus de 50 qui l'attendaient devant sa porte. Ils se mirent en route. Des agents arrivèrent brusquement, des cris s'élevèrent. « À bas la police !» Et tout d'un coup, les camarades se mirent à chanter « C'est la lutte finale !» Groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain. Mon père marchait près de Faber. Il tenait une de ses valises à la main. Il chantait à pleine voix. Ils traversèrent ainsi la ville devant une foule de curieux, muets de surprise. À mesure qu'ils s'avançaient, de nouveaux camarades se joignaient à eux. Le docteur Robal les attendait au port. Quand ils l'aperçurent, ce fut des cris d'enthousiasme. « Le docteur ! Vive le docteur !» Devant le bateau, ils se bousculèrent. Faber était monté sur un tonneau. « Camarades !» Mais sa voix était couverte par le grondement des treuils et les mille bruits du port. « Qu'est-ce qu'il dit ? J'entends pas. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? M'écoute ! Il dit qu'il n'est pas prêt de nous oublier. Écoute un peu. Entre les mains du docteur, vous, quoi ? Il dit qu'il faut suivre le docteur. Quatre heures venaient de sonner à la cathédrale. Mon père venait de faire une bricole et se retournait vers le fond de son échoppe, où il mettait ordinairement dans un tas les souliers à réparer. Quand il vit qu'il n'y avait plus rien, ça par exemple, il n'eut pas la force de rien ajouter et s'assit sur son tabouret. Il se mit à repasser dans sa tête tout le travail qu'il avait fait dans les premiers jours de la semaine. Un ressemelage pour Madame Collin, un autre pour Madame Loiseau de la rue Saint-Martin, des talons pour Monsieur Beau, ben ça fait 3. Depuis lundi, il n'était venu personne dans sa boutique, plus un sou d'ouvrage. Il avait comme honte, il n'avait qu'à faire une boutique et à se croiser les bras. Mais faire une boutique est trop difficile. Il pouvait rester là. Sur son veilloire, c'est fort. Il sentit tout à coup une espèce de coup de tue, tout court, parce que moi il s'habilla à faire mal à la question. Du premier instant, il avait pas compris, bien que d'une manière confuse et comme un sentiment costaud. Chômage. Il s'efforçait de chasser cette pensée qui lui faisait trop de mal. Ce n'est pas possible. On ne peut pas chercher à atteindre l'homme dans ce travail. Le jeune homme qui avait fait son cigare avait tressailli quand même. Elle crut qu'il était baissé comme un jour.
le doigt ouvert. Eh bien, François, il ne faut pas te tracasser. L'ouvrage revient. Puis sœur et moi, nous étions en cœur. C'est pour ça que vous montrez moi vos souvenirs. Ah, ils sont tous bien malades, en ont une autre, et bien non. Eh bien, vous n'irez pas à l'école. C'est dommage. Fais voir tes souvenirs, parce que j'y suis. Puis mon mal de petit père, qui n'est qu'une innocente. Veuillez passer son élève, je vous ferai saisir. Et puis je vous passerai. Je vous ferai. Et matin, je vous revenais à l'école, Louise, pour ma femme, pour vous. C'est mon ami, dans sa petite main, et celui qui a couru, son cœur battait. Attends-moi, crie Anne. Huissier, voilà, faites près dehors. Écoutez, voilà tout le monde qui a le coup. Voilà le coup. Elle me vient, c'est tout ou rien. Le fond de l'argent, bonjour. Alors quoi? Elle veut tous nous faire crever. Écoute à la porte. François, François, elle le met en pleine la belle chambre. Ouvrir le tiroir de la commode. François, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi! Professeur, en place, François. Tenez à la main un revolver. Ne me retiens pas. Il se fout dans l'escalier à sa souris. Il va la tuer. Mon Dieu, il est piqué. Mais tournez au coin de la rue déserte. Il a crié. Arrête! Monsieur le voile. Sur sa porte, encore sur sa lune à la main. Monsieur le voile, courez. Il a pris son revolver. Il va chez Mademoiselle Marquet. Monsieur le voile, je passe à sa dernière. S'enferma dans la belle chambre. Vous allez avoir un idée. Mon locataire. Qui est là? Jamais. Maintenant, vous envoie ceci.
François, voilà notre noyer. C'était chaud. Je ne suis l'esclave de personne. Le docteur Probal, il avait répondu, je ferai ce qui me plaira. Voilà Saint-Père, mon Dieu, il était une fois, ils sont bien débordés. Elle avait envie de parler de tout le monde, elle sentait qu'elle allait pleurer. Sous cette noire, son panier au bras, elle se hâta de temps en temps, elle le secouait et les souvenirs roulaient. Ils sont bien là, elle avait envie de les regarder, de les compter, elle se disait. Pouvons espérer. Ils étaient joyeux. L'espoir de voir quelqu'un des leurs entrer au conseil les grisait. N'allez pas trop vite, dit le brave. Pourquoi pas? Peut-être.
peut-être que si, mais attendez la fin, ces messieurs sont forts, ils nous ont roulé plus d'un coup. Ce coup-ci, ils ne nous rouleront pas, dit Marie, pas ce coup-ci. Votre moral vous perdra. Bouge-toi, tu me fais. Bien, viens. Et je colle le sucre. Va chercher une personne. Mais ça arrive vers les 5 heures, il est calé à ma mère, j'ai rien, je donne encore à la street. Ça ne cache pas la vérité. C'est la typhoïde en plein. Vous avez déjà un problème pour la capacité de la typhoïde. Des hommes tirés dans les pancartes, mon père aidait l'autre à pousser l'ambulance. Je suis fait, sans chapeau, les pieds nus, dans des sandales crevées, afflué dans le port d'un coup, je m'en ai mis pour avoir l'air d'un seul. Bonheur de l'homme de ma mère. Marie est à l'hôpital, mon père, il a fallu l'emmener hier soir. Et répétant les paroles du docteur, il ajouta : c'est la typhoïde en plus. Rangée d'or portant l'inscription « Les enfants du peuple ». Tous nos camarades étaient là, dans leurs gros habits du dimanche. Filles et garçons chantaient, conduits par le bras, entendu la petite, pareil à l'autre faculté d'élèves, radieuse fraternité. Passait par le doux drapeau, celui de la bourse du travail, large et flottant doucement, vélo le portait avec fierté, entouré de camarades. Jean Gras, coupait celui des enfants. Le voilà, regardez. Il flotte fièrement, il boule. C'est qu'on dit au combat préparé. Osez, osez le pied. Notre superbe drapeau rouge. Vous venez prendre l'ouvrier. Vous où j'aurais pu se rendre. Ils étaient tous là, ceux que je voyais, ordinairement chez nous, brillants. Petit programme, Calvez, intrigué, Kénic, le facteur maillé, le comptable, et ceux du chemin de fer, des gaspillons pour la foi, tous chantaient dans la foule, ils se montraient quelques femmes par Dieu, des Louise Michel, et enfin, donnait un chat. Comme la panique. Ses roues et des carrés de feuillage, il avançait lentement à travers les grands fruits. Un matin, la nuit, courut en ville d'un groupe d'anarchistes avait essayé d'entrer dans une caserne pendant la nuit. Surpris, les gardes, ils s'étaient enfuis. Mais ils avaient réussi à coller deux affiches et à jeter à la volée, à travers les fenêtres ouvertes d'un atelier, des tracteurs révolutionnaires. Arrêtez qui et quoi, ils ne peuvent pas, les bourgeois ont peur de nous. Ils n'osent pas agir s'ils arrêtaient un seul d'entre nous, mais voyons, ce serait la révolution. Lisez les journaux. Vous saurez ce qui se passe. Le 17e a refusé de tirer sur les ouvriers en grève. Nous avons reçu des affiches et des tracts pour dire aux jeunes soldats de faire comme eux si on les envoie là-bas. Comment ? On ne prend un jeune ouvrier, on lui met des habits de soldats et il faut qu'il tire sur site.
Mais après, de là, que ça soit enseigné dans des écoles, moi je suis pas du tout d'accord.